Vous écoutez France Inter, il est 13h30. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Le facteur dans la marche de l'histoire, c'est ça?
Ben oui, vous nous annoncez le départ du gouvernement du petit télégraphiste de l'innovation. Nous, on va parler de la résistance, de l'esprit des facteurs.
Bonne émission.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
L'esprit facteur.
Prêter serment, on le fait généralement une fois dans sa vie, et pour ses 11 apprentis postiers, c'était aujourd'hui le grand jour.
Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les clients, l'inviolabilité et le secret des correspondances et des informations concernant la vie privée d'autrui.
Le courrier, c'était une chose de première importance. Le facteur prête le serment de le protéger. Est-ce parce qu'il tient une place, qu'il ne doit pas déroger, que c'est maintenu un esprit facteur? Seulement le courrier, l'objet même de l'activité de la poste, se dérobe à elle. Il lui faut trouver de nouveaux chemins en mettant de plus en plus l'accent sur l'industriel et le commercial. Ses capitaux sont encore publics, mais depuis 2010, son nom exact est devenu Groupe La Poste S.A. Les derniers facteurs recrutés comme fonctionnaires l'ont été en 2003. Leurs successeurs aujourd'hui portent des tenues en coton équitable, commencent à être équipés de smartphones. Il leur est demandé de diversifier leurs tâches, porter eau, porter des médicaments, cohésio, veiller aux personnes isolées en temps de canicule. Restés très nombreux, quelques 70 000, ils sont paradoxalement renforcés par ce rôle d'ambassadeurs de l'adaptation que leur donne l'entreprise. Qui plus est, leur recrutement change. Maintenant, une très grande part d'entre eux ont fait des études supérieures. Du déclassement, ils peuvent tirer de l'amertume, mais tout aussi bien décider de valoriser leur expérience et dire « d'un vieux métier populaire honorable et toujours médiocrement payé, on peut peut-être faire un métier riche en relations humaines et en services rendus ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marie Cartier, venue de l'Université de Nantes. Bonjour Marie Cartier.
Bonjour.
Il y a dans l'histoire sociale en France une veine, je dis pas que c'est un filon qui permet la fortune médiatique, mais qui consiste à explorer d'en bas les métiers modestes.
Oui, tout à fait. Depuis la fin des années 90, on a vu plusieurs recherches portant sur des métiers modestes, des métiers d'exécution, tout à la fois dans l'industrie, ça c'est une tradition qui a toujours été importante en France, d'histoire ouvrière, mais aussi dans les services, et je m'inscris tout à fait dans ce mouvement.
Et depuis votre prime jeunesse, parce que là, je vous ramène en vous invitant à venir parler de l'esprit facteur, au sujet qui était le vôtre quand vous aviez 27-30 ans. Vous en avez fait un très beau livre dans la collection Enquête de terrain à la découverte sur le facteur et ses tournées. Vous avez travaillé dans une ville de banlieue dont on taira le nom. Vous avez participé à des jeu de relations extrêmement compliqué parce que l'enquêteur, il n'est pas neutre. Les uns et les autres cherchent à l'attirer dans leur filet.
Outre l'histoire, le travail sur archives, je pratique donc aussi l'enquête de terrain ethnographique. Et dans ce type d'enquête, on rompt avec l'illusion de transparence de l'enquêteur pour décrire et objectiver les relations que les divers groupes de personnes qu'on observe nous avec nous. Et on en tire, en fait, on s'en sert comme objet de connaissance.
Exemple, vous êtes dans un milieu populaire, les facteurs, et vous êtes censé appartenir aux classes supérieures puisque vous faites une thèse. Donc la chef
oui.
du bureau de poste dont on taira le nom.
La chef du bureau de poste se valorise de ma présence, essaie de manger à ma table quand on va déjeuner au restaurant du centre de tri. Et c'est vrai que là, bon, c'est tout le savoir de l'enquêteur de terrain d'essayer de contrôler les alliances qu'il fait ou qu'on lui impose pour pouvoir se ménager la possibilité de circuler et de gagner la confiance, non seulement de la hiérarchie, mais aussi là, des facteurs, puisque c'était ce personnel qui m'intéressait. Donc j'ai essayé de garder mes distances.
L'enquêteur de terrain, il va participer dès le petit matin à cette première activité physique qui est celle du tri.
Oui, 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 et je logeais dans un foyer PTT, il en existait encore à cette époque. Et le principe, en effet, est pour comprendre de manière la plus juste possible le travail, il faut le vivre dans ses rythmes et ses espaces. Et donc, pendant un mois, j'ai fait de l'observation directe à la manière des anthropologues.
Vous avez senti qu'il fallait avoir le bras long pour faire le tri. Et après, vous avez accompagné dans leur tournée des facteurs, et vous êtes aperçu, mais vous le saviez déjà, mais vous n'aviez peut-être pas mesuré le poids des 20, 30 ou 40 kilos qu'il faut transporter, que la distribution, c'était une activité de manutention. Ce que savait, dès le lendemain de la libération, on va commencer notre travail d'exploration à ce moment-là, le grand Jacques Tati, qui dans un court-métrage, L'école des facteurs, 47, essaye d'entendre et de comprendre le message de son professeur en manutention.
Du jarret, messieurs, du jarret. Attention, vous marchez à l'allure normale pour une lettre. Bien, bien, attention. À mon commandement, télégramme. Bien, bien, très bien. Pour descendre, descendez. Un, deux, trois. À mon commandement, attention, bicyclette hanche, 1, 2, boîte ventre, 1, 2, cherchez l'autre, 1, 2, tendez l'autre, 1, 2, 3, 4, autant, autant, attention, bicyclette hanche, 1, 2, boîte ventre, 1, 2, cherchez l'autre, 1, 2, tendez l'autre, 1, 2, 3, 4,
vous comprenez, ça arrive qu'on nous invite, d'ailleurs... Vous pouvez l'entendre.
Oh, silence.
Oh,
avec du silence. À dater de cette minute, vous êtes facteur diplômé des hautes études de distribution de la correspondance nationale.
Un peu plus tard, dans Jour de fête, Jacques Tati montrera sa crainte de la motorisation des facteurs. Ça viendra pas si vite, hein.
Non, là, en France, la motorisation des tournées de distribution du courrier se développe à partir des années 50 et de façon assez lente. Et par ailleurs, elle n'est pas adaptée à tous les modes d'habitat. Donc, que cette distribution s'effectue en vélo, à pied ou en voiture, ça reste, comme le restitue bien l'extrait de film que l'on vient d'entendre, une activité qui exige beaucoup de dépenses physiques.
À la suite de quoi, une fois le concours obtenu, on peut devenir, dit le professeur de Jacques Tati, diplômé des hautes études de la correspondance nationale. Ce qui veut dire peut-être en clair, à partir de 1946, fonctionnaire. Mais tout petit fonctionnaire, fonctionnaire de la lisière.
Oui, en effet, le facteur est situé au bas de la hiérarchie des métiers à la poste, en dessous du guichetier, qui est un autre postier dont on est familier. Et il est dans une position subordonnée, il reçoit des ordres, il est étroitement surveillé lors du tri, on l'a dit. Donc, en effet, c'est une position assez subalterne.
D'où la nécessité, le salaire étant très faible, d'attendre beaucoup de la tournée du calendrier. Ça, c'est extraordinaire. C'est une vieille survivance et en même temps une tolérance, la distribution du courrier à la période des vœux. La distribution du calendrier, pardon, à la période des vœux.
Il est important de rappeler en effet que les salaires de ces fonctionnaires à cette époque, dans la France des Trente Glorieuses, étaient très bas, plus bas que des salaires d'ouvriers. Et donc, en effet, les facteurs tirent de ce rituel des calendriers distribués en fin d'année aux résidents de leur tournée des sommes qui ne sont pas négligeables. Ils reçoivent aussi à l'époque beaucoup de pourboires, puisque c'est une période où de nombreuses opérations financière avait lieu à domicile, le paiement des mandats. Et donc, c'est toute une activité autonome que les facteurs exercent et qui leur donne aussi une importance particulière.
La tentation de puiser dans le contenu des mandats existe parfois. C'est pour ça que le serment a tellement d'importance. Le serment qui donne un peu de l'invulnérabilité qui doit protéger le pli, au facteur.
Oui, on a l'impression, effectivement, à cette époque, que le caractère précieux et noble de l'objet que ces facteurs acheminent déteint aussi sur eux-mêmes, leur confère un certain prestige, et qui est d'ailleurs matérialisé à l'époque hein, par un uniforme aux lignes assez strictes.
Et... Vous voulez dire policière ?
Oui.
Képi, longtemps.
Voilà. Et du coup, ce facteur, tout en ayant, comme on l'a dit, une activité de type ouvrier, est également un représentant de l'État dans les rues des villes et des villages. On peut aussi souligner qu'à l'époque, l'instruction primaire, la maîtrise de l'écrit n'est pas encore totalement généralisée. Et c'est aussi un attribut de ce petit fonctionnaire.
Qui sait sa géographie, par exemple.
Lire et écrire, qui connaît sa géographie et qui
C'est d'abord dans la journée le monde de la surveillance dans le centre de tri, et puis après c'est l'autre versant de la journée, c'est le temps de la liberté sur une tournée que le facteur, le sait-on, c'est encore le cas aujourd'hui, choisit, achète, en fonction de son ancienneté et de sa notation bien sûr.
Oui, c'est une coutume, ce qu'on appelle la vente des tournées, qui a été réglementée, qui a fait l'objet de circulaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui permet, sous conditions d'ancienneté, de bonne notation également du fonctionnaire, de choisir la tournée qu'on souhaite, à condition qu'elle soit vacante. Et c'est une tradition à laquelle les facteurs sont très très attachés. Toutes les tentatives de remise en cause par l'administration de ce principe se solderont durant la période dont on parle par des échecs.
Mais il y a une assemblée pendant laquelle on distribue les tournées.
De façon régulière, deux fois dans l'année, s'opère une espèce de vente à la criée des quartiers, des tournées vacantes. Et les facteurs, oralement, hein, là, c'est uniquement une métaphore que ces mots de vente et d'achat. Néanmoins, ils sont révélateurs parce qu'ils indiquent la possibilité d'une appropriation par ce travailleur d'exécution de ce petit territoire qu'est la tournée.
Alors, on est dépendant au moment du tri, on est beaucoup plus indépendant au moment de la tournée, et c'est le client qui est dépendant même un peu du facteur.
Oui, bien sûr, puisque durant la période dont on parle, la Poste a le monopole de la distribution du courrier. Donc, on ne peut pas changer de facteur, même si on ne s'entend pas avec lui. Et des relations de pouvoir s'instaurent en effet avec certains résidents.
Et c'est ainsi qu'appartenant profondément au milieu populaire, le facteur de cette époque peut parfois se targuer d'un comportement aristocratique.
Quand un facteur s'envole, c'est qu'il est trop léger. Alors, pour voyager, au-dessus des platanes, il plane, au-dessus des maisons, il chante une chanson. Les oiseaux à la ronde lui font bonjour. Autant d'oiseaux au monde, autant de lettres d'amour que le facteur apporte et glisse sous les portes. C'est le courrier du cœur, le courrier du bonheur. C'est le courrier du cœur, le courrier du bonheur. Vois sans pareil pour le facteur, comme il fait bleu, qu'il fait bon dans son cœur. Il s'émerveille aux libertés, volis soleil, amour, clarté. Quand un facteur s'envole, il voit le monde petit, les gens comme des fourmis, le clocher du village, bien sage, l'école et la mairie, et la gendarmerie. Sa fiancée toute rose dans un jardin, oh oh, comme une fleur éclose au milieu du chemin. Alors vite il se pose et cueille cette rose qu'il emporte avec lui seul dans son paradis. Qu'il emporte avec lui seul dans son paradis. Et c'est ainsi que finit la chanson folle du facteur qui s'envole. Et c'est ainsi que finit la chanson folle du facteur qui s'envole.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Mais non, ça n'est pas fini. L'esprit facteur, il se recompose, il se redéploie dans notre paysage tout fait de conformité. Il est comme une butte témoin d'un autre type de relation et de service possible. Marie Cartier, vous avez étudié à la fin du dernier millénaire la transformation et de l'entreprise La Poste et du métier de facteur. Bon, la transformation de l'entreprise La Poste, le service public demeure un service public, mais sa vocation industrielle et commerciale s'accentue. Il est soumis à la modernisation dans la perspective européenne, à la concurrence, etc. etc. Je vais pas parler comme Emmanuel Macron. On va peut-être prendre un ou deux moments de la transformation. Concurrence, divergence. Les postes et les télécoms ne faisaient en principe qu'un, mais à partir des années 1970, il y a séparation des comptes et il y a aussi séparation de l'image, du logo. Alors peut-être certains de nos auditeurs se souviennent-ils de ce spot à la télévision de la fin des années 70. Il y a un individu juché sur une grue télescopique, c'est le monsieur des télécoms, qui appartient un peu au monde des ingénieurs, c'est Thierry Lhermitte. Et puis en bas, dans sa voiture jaune, ça date de quand le jaune? Les années 60?
Je pense.
Ah, oui. Dans sa voiture jaune, il y a le rampant, la 4L, hein, est occupée par Christian Clavier.
Et la cravate? Faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo?
Eh oh, doucement, Armand! Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse!
Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais.
Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom? Du tricot? En 5 ans, on a doublé les abonnements. Et je te parle pas des satellites.
Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne, tes satellites, hein? Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc!
Eh, en tout cas, toi, si tu tombes en panne, tu peux toujours reprendre ton vélo? Et blanc?
Oui, alors en attendant, tu dégages ta girafe parce qu'il faut que j'y aille, hein? Merci, tu me fais plaisir.
Entre la poste et les télécommunications, il y a toujours eu une certaine émulation. Tant mieux, tout le monde en profite. PTT, les hommes qui relient les hommes.
En vol du téléphone, en 74, il fallait un an pour avoir le téléphone. À l'époque, fin des années 70, le courrier demeure important. La poste va se retrouver peu à peu asséchée par la diminution du courrier. Si il y a la carte vitale et plus les feuilles de sécurité sociale, c'est l'effondrement d'une part du marché. La poste est quand même restée une structure publique, mais maintenant avec le statut très particulier de société anonyme, avec des capitaux encore publics. Il y a un grand moment, c'est les années 90.
Oui, depuis le 19e siècle, le service postal était une administration d'État, dirigée selon les périodes, soit par un ministère, soit par un secrétariat d'État. Et c'est donc en 1990-91 qu'une réforme a modifié le statut de la Poste, qui est devenu un établissement public. Et c'est en 1990 que cette séparation entre les deux entités qui vont devenir la Poste, cette séparation des PTT entre la Poste et France Télécom s'opère véritablement.
Avec un rôle charnière, ça intéressera l'historien qui est peut-être Emmanuel Macron, donné à la CFDT.
Oui, oui. Ce projet de changement de statut de la Poste, il était dans les tuyaux depuis très longtemps, hein, depuis au moins les années 70. Il y a des tentatives dans les années 80. Mais la Poste est restée, durant toute cette période, un lieu de forte syndicalisation. Et donc, il y avait des oppositions, des résistances, et puis la crainte aussi et les effets négatifs des grèves. Et en 1990, le soutien de la CFDT est décisif pour la réalisation de cette réforme.
Maintenant, on est à un quart de syndiqués seulement chez les facteurs. Le taux diminue beaucoup. Le recrutement change aussi. Entrée des femmes, multiplication des Antillais, le facteur urbain qui redevient majoritaire, comme il l'avait été au début du service public au temps de la monarchie constitutionnelle et du 19e siècle. Et il y a aussi maintenant davantage d'étudiants qui vont devenir facteurs, de diplômés des études supérieures.
Durant les Trente Glorieuses, le recrutement des facteurs, c'était vraiment des hommes peu diplômés. Ils avaient le certificat d'études primaires. Et à partir du début des années 80, les concours de facteurs vont devenir très sélectif, d'une part parce qu'il y a moins de postes mis au concours. Là, c'est toutes les politiques de restriction des dépenses publiques qui sont menées à partir du tournant de la rigueur. Mais aussi le chômage de masse qui
qui revalorise
relativement la position salariale des facteurs.
Oui, et puis qui attire à ces concours beaucoup de candidats et donc en effet des étudiants qui ont fait des études longues et qui se heurtent à la précarité, au petit boulot lors de leur entrée sur le marché du travail, peuvent être amenés à se rabattre sur ces concours de petits fonctionnaires.
Au fond, c'est un métier de forte mobilité, un moment ascendante, de trajectoire descendante, peut-on dire, entre guillemets. Il n'y a pas de famille de facteurs.
Si, ça existe, mais quand on fait vraiment le travail statistique, on se rend compte que c'est relativement minoritaire par rapport à d'autres origines sociales.
Alors, demeurent chez ces nouveaux venus des formes de l'esprit facteur, tel qu'on l'a tenté de le définir depuis le début de cette émission, mais transformé, recomposé, c'est quoi l'esprit facteur ? C'est une certaine liberté de parole ?
Oui, j'ai trouvé en fait cette expression dans les archives, hein, dans des rapports d'inspecteurs généraux qui décrivaient l'état d'esprit au service de la distribution dans les années 60. Ils racontaient que certains receveurs avaient peur de faire le tour de la salle de distribution. Donc ça renvoie à un esprit un peu d'indépendance, de franc-parler, d'indiscipline qui a longtemps caractérisé ce métier de facteur.
Au 19e, il y avait des ouvriers qu'on appelait les sublimes, qui se permettaient de ne pas travailler le lundi. Je ne dis pas que c'est le cas des facteurs, mais les facteurs, à vous entendre, ils ne veulent pas nécessairement être conformes aux normes de la petite bourgeoisie, l'économie, la propreté, l'épargne. Non, ils ne veulent pas déchoir de ce qu'ils pensent être.
Oui, que contrairement à des travaux qui soutenaient que quand on devient petit fonctionnaire, il y a automatiquement une assimilation aux classes moyennes, ça a beaucoup été développé, cette idée. J'ai plutôt développé l'idée que pour ces facteurs et pour ces métiers subalternes, physiquement pénibles, la poste offrait plutôt une espèce d'abri et une possibilité de développer une condition populaire stabilisée, mais donc sans rupture avec une culture populaire qu'on va aussi retrouver dans le milieu ouvrier avec cette idée du franc-parler que vous évoquiez.
Une forme de l'esprit facteur, une forme parmi d'autres possibles. Service, on fait ce qu'on doit faire, le travail est fait, il est bien fait, il est partout fait, la vie privée est protégée et on maintient le principe d'égalité entre tous les usagers. Ici, nous sommes au temps du bikini, vous savez. C'est un film qui s'appelle Le facteur de Saint-Tropez, c'est loin. Hein. Et Paul Prébois, il avise sur la plage une usagère de la poste. Elle n'a pas ses papiers pour cause.
Madame Baldassari, Geneviève.
Qu'est-ce qu'il y a, Robin ?
Oh, un mandat. Votre carte d'identité, s'il vous plaît.
Vous plaisantez, Robin ?
Ah, alors, pas de papier, pas de mandat. Voilà un avis de passage. Vous viendrez chercher votre mandat à la poste. Et n'oubliez pas vos papiers.
Vous prenez le pastis tous les jours avec mon mari ? Vous jouez à la pétanque avec lui ? Et vous me demandez mes papiers ?
Le pastis, c'est le pastis, la pétanque, c'est la pétanque, mais le service, c'est le service. Mes respects, Madame Baldassari.
Vous savez où vous pouvez vous le foutre, votre avis de passage ?
Oh, je vous en prie, Madame Baldassari. Du monde. Pardon.
Alors, une certaine forme de l'esprit facteur, vous la retrouvez, c'est un peu l'équivalent de Paul Prébois, chez votre camarade Georges, que vous accompagnez en tournée.
Alors
qui est assez porté sur la chose aussi.
Quand on s'intéresse de près à ces facteurs qu'on peut dire déclassés parce qu'ils sont entrés à la poste après avoir subi des licenciements et avoir occupé des positions professionnelles plus élevées, on se rend compte que peut quand même, sous certaines conditions, se développer une identification positive au métier. Et dans le cas de Georges, qui est un ancien cadre promu de l'industrie chimique, originaire du bassin minier du Nord, cette identification passe par un rigorisme réglementaire. Il se fait un point d'honneur d'appliquer le règlement à tous. C'est le principe de base du service public, égalité de traitement de tous les usagers.
Par exemple, Sacha, chef, celle qui veut vous inviter à déjeuner, habite sur sa tournée, sa boîte aux lettres n'est pas normalisée, il tue le courrier de la chef.
Voilà, il est titulaire, Georges, d'une tournée de centre-ville sur laquelle il y a beaucoup d'usagers importants, des commerçants, des entrepreneurs et également sa chef. Et dès qu'il repère une anomalie dans la confection des boîtes aux lettres ou alors dans l'adressage des courriers, plutôt que de rendre service comme le font certains d'autres facteurs, lui, il applique de manière stricte le règlement.
Mais les nouveaux venus peuvent avoir une autre conception de la recomposition de l'esprit facteur et valoriser l'échange, le relationnel, faire de leur tournée, ça existe, des espaces quasi romanesques avec des liens plus ou moins forts, plus ou moins faibles, des liens d'amitié vraiment. Je voudrais que on termine sur le choc qui peut exister entre ces nouveaux venus dans le métier de facteur, souvent issus de des études supérieures, avec les quartiers difficiles où ils sont nommés souvent à leur premier poste. Pendant que vous enquêtiez, Dominique Cabrera tournait ce documentaire dans un bureau de poste à La Courneuve. Nous sommes en 1994-95. Une femme de ménage d'abord, un guichetier ensuite.
Là, celui-là, c'est le folklore, là. Tout le temps qu'il n'a pas son mandat ou son machin, on va le voir tous les jours. Puis une fois qu'ils ont touché leur argent, c'est fini. Vous les voyez plus. Alors à 8h, c'est noir dehors, hein, je vous préviens. Après, à l'ouverture, il faut les faire reculer pour pouvoir ouvrir la grille. Parce que sinon, ils se tiennent à la grille. Ils ont l'impression que la porte va s'en aller sans eux. Après, c'est fini. Après, c'est la bagarre, c'est la chaîne. Alors, ils n'ont qu'une chose, c'est qu'une hâte, c'est toucher leur argent et de râler. Et à la rigueur, d'insulter le guichetier.
Je sais pas, dans des milieux comme ça, dans des villes comme La Courneuve, j'ai l'impression que la poste leur permet de leur sentir appartenir à quelque chose, à une société, à un pays, ou pas un établissement, mais à une ville. Ils appartiennent à quelque chose. C'est pas le commissariat qui va leur faire prendre conscience qu'ils appartiennent à quelque chose, parce que bon, le commissariat ici, la plupart du temps, quand ils interviennent, c'est pour tac tac tac. Alors c'est pas pour être méchant avec la police, tout ça, ils font leur boulot. Mais on est là entre, pour eux, nous c'est le gouvernement, hein, c'est le gouvernement, et eux c'est bon, ceux qui n'ont pas de chance, tout ça. Mais la façon dont on les sert, c'est quelque sorte, ils sont là.
Pour un RMiste, un chômeur, le courrier, ça garde une importance extrême. Pour celui qui le lui distribue, il peut y avoir une certaine promptitude à se sentir agressé.
J'ai observé, en effet, que dans ces quartiers périphériques, le service postal souvent se dégradait. Souvent, c'est les tournées situées dans des quartiers périphériques qui sont laissées à découvert, comme on dit. Elles ne sont pas prioritaires pour l'affectation des remplaçants, qu'on envoie plutôt prioritairement en centre-ville. Et du coup, il y a une espèce de relation de tension entre les habitants de ces quartiers et les postiers. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les conditions de travail pour les facteurs sont plus difficiles dans ces quartiers en raison de la mobilité des habitants, des changements d'adresse, des ordres de réexpédition, en raison également de la configuration des lieux. Ces grands ensembles construits dans les années 60-70, ils ont souvent des toponymes qui se ressemblent, enfin, ça prête à l'erreur de distribution. On reçoit aussi beaucoup dans ces grands ensembles du courrier recommandé en provenance des tribunaux, par exemple, ou des administrations. Et ça aussi, c'est une suggestion supplémentaire pour le facteur.
Le facteur est-il encore un médiateur ou celui qui annonce, comme d'autres employés des services publics, les mauvaises nouvelles? Marie Cartier, l'esprit facteur, je rappelle aux éditions de La Découverte, il y a peu d'années, votre excellent livre sur le facteur et ses tournées. Puis on vous retrouvera bientôt, parce que je crois que vous travaillez maintenant sur les assistantes maternelle, un métier très important. Vous êtes devenu bébéphile. Un petit mot, Mathieu Vidard, de votre programme dans La Tête au Carré.
Oui, Jean, on va parler de la pollution qui met en danger notre cerveau et donc nos capacités intellectuelles avec une baisse du QI.
Et un remerciement particulier à Valérie Aestaray qui a réalisé cette émission et à Michel Bézikian qui était aux manettes.